Je vote pour la science avec Isabelle Bourgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Le Québec est un pays d'électricité verte et sera sans doute appelé à le rester dans l'avenir. Hydro-Québec projette la construction d'un méga-parc éolien dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce serait le deuxième plus grand parc de ce type au monde, avec une étendue de plus de 5000 km² et il pourrait même atteindre la capacité de 3000 mégawatts. Nous vous en avions parlé lors d'une précédente émission. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rivière-du-Loup et Nicolet seraient les régions les plus propices pour exploiter l'énergie du vent. Ce méga-parc éolien sera mené en partenariat avec les Premières Nations, un modèle qui pourrait faire école s'il fonctionne. Le Québec compte d'autres parcs éoliens bien plus modestes, dont certains font face à un manque d'acceptation sociale, surtout au sud. Il y aura ici des enjeux environnementaux et sociaux à prendre en compte. Ce méga parc éolien pour plus de suffisance énergétique pour tous, nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. À Je vote pour la science, nous intéressons aujourd'hui au méga-parc éolien qui devrait être construit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le fruit d'un partenariat avec les communautés autochtones avoisinantes et la MRC. Comment s'annonce ce développement énergétique vert reposant sur la puissance du vent? Pour en parler, je suis en compagnie de José Provençal, professeure adjointe et chercheuse en sciences politiques au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Julie Reid-Forger, experte en conciliation du territoire et chroniqueuse environnement. Bonjour.
Bonjour.
Donc, grand comme 10 fois la superficie de Montréal, ça sera le plus grand de ce type en Amérique du Nord. Ce méga-parc éolien renforcera notre capacité à produire de l'énergie verte et pas juste avec de l'hydroélectricité, mais présentera certains défis dont nous allons parler maintenant. Donc d'abord, Madame Provençal, quel est l'intérêt d'Hydro-Québec de se lancer dans la course à l'éolien?
De mieux contrôler le développement éolien sur le territoire. Je pense que c'est une critique qui leur a été largement adressée, notamment dans les différentes consultations publiques qui ont pu avoir lieu dans les différents projets là, hors de ces grands projets, donc les projets usuels auxquels on est habitué depuis le début des années 2000. Donc l'idée, les gens, la population, mais aussi parfois et souvent les élus demandaient à ce que Hydro-Québec soit davantage maître d'œuvre des projets, justement pour mieux arrimer les besoins des régions, les besoins de la population et des communautés autochtones sur le territoire, de pouvoir être dès le départ impliqué dans les projets, ce qui se fait de plus en plus. Là, il ne faut pas croire que ça se faisait pas parce que Hydro-Québec n'était pas aux commandes, si
oui.
On veut.
Mm-hmm.
Donc, depuis quelques années, les MRC, les municipalités ou les communautés autochtones sont impliquées. Mais c'est sûr que plusieurs citoyens élus se demandaient pourquoi c'était des entreprises privées qui s'en occupaient plutôt que Hydro-Québec. Donc, ils ont fait une tournée, là, Monsieur Sabia a fait une tournée des régions à l'hiver et puis en a découlé là, ce nouveau plan là, pour l'implantation de grands projets éoliens.
Est-ce que c'était parce que c'était une technologie trop avancée ou trop hasardeuse à cause du vent? Je ne sais pas.
Le départ, il faut voir que les premiers projets éoliens au Québec sont arrivés au début des années 2000.
Oui.
Mais c'est sûr qu'au départ, il n'y avait peut-être pas l'expertise au sein d'Hydro-Québec. Je ne sais pas à quel point aujourd'hui il y a une expertise qui s'est développée au sein de l'organisation. Je pourrais pas répondre à ça, mais c'est sûr que c'est développé dans une certaine mesure, évidemment, mais on s'entend que s'ils vont être maîtres d'œuvre du développement éolien et non pas constructeurs. Donc, ça va se faire en partenariat avec les entreprises privées qui sont déjà sur le marché aujourd'hui. Mais bon, on ne connaît pas encore la nature de cette mécanique entre à la fois les communautés locales, communautés autochtones, Hydro-Québec et le privé, là, c'est pas clair encore. on ne sait pas.
Oui, il y a quelques défis. Madame Reid Forger, justement, quels seraient selon vous les défis d'un tel projet, ce méga parc?
Oui, ben, écoutez, c'est sûr que les... quand on pense à l'énergie, il faut penser aussi les impacts de ces projets-là, comparés à d'autres projets, hein, parce que les projets énergétiques, en général, le gaz naturel, l'énergie fossile en général, ou bien même les barrages, ont quand même des effets, des impacts beaucoup plus importants sur le territoire que, par exemple, un projet éolien. Bon, dans ce cas-là, on parle de très grands projets éoliens. Sauf qu'on connaît pas, dans le fond, quand on regarde la planification, puis l'esprit du communiqué de presse, ainsi que le document là qui s'appelle « Tracer la voie vers une réussite collective, la stratégie de développement éolien », on comprend qu'il va y avoir un plan d'aménagement éventuellement qui va être développé avec les communautés de Mastoyatch et de Wimotashi, ainsi que la MRC du domaine du roi. Alors, il est possible que dans le plan, on réussisse à trouver des voies de passage là qui rendent le projet plus intéressant pour répondre aux défis. Mais évidemment, les défis importants d'un parc éolien dans une forêt boréale, c'est les chemins d'entretien. Alors, les chemins d'entretien vont vraiment ouvrir le territoire à plusieurs personnes, les prédateurs, donc de nos animaux un peu plus fragiles, aussi les gens qui fréquentent le territoire, donc ça augmente l'utilisation des humains du territoire.
Et les allers-retours.
Puis évidemment des pertes forestières non substantielles, mais que évidemment il y a une cohabitation entre la forêt et le parc éolien. Alors, en bref, là, c'est un peu ça. Puis, mais pour l'instant, on n'a pas le contour de ce projet-là. Puis, s'il prévoit des corridors là écologiques pour le passage de la faune, c'est possible que ça soit au final intéressant. Moi, je voyais surtout dans cette offre-là, quand j'ai lu le document, je voyais surtout une manière aussi de réduire les conflits d'usage dans le sud du Québec. Dans le sud du Québec, à chaque fois qu'on propose un projet éolien, même s'il est très petit, il y a un enjeu au niveau de l'agriculture, le paysage, le récréotourisme et le milieu bâti. Alors peut-être si les peuples autochtones réussissent à trouver quelque chose d'intéressant pour eux, avec une augmentation d'un revenu pour les gens, pour les communautés éloignées, autochtones ou non, les sources de revenus collectifs sont quand même limitées à cause de la distance des marchés.
Oui, c'est intéressant. Madame Provençal, justement, pourquoi le choix de la Côte-Nord et cette grande taille? Parce que c'est un mégaparc, on annonce le deuxième plus grand au monde. Là. C'est grand, ça?
Celui qu'on parle, c'est bien celui du Saguenay, n'est-ce pas? OK, parce que on parle de 3000 mégawatts jusqu'à maintenant qui va se faire en phase. Là, on s'entend, c'est pas quelque chose qui va se faire d'un seul coup.
Mmh. Est-ce que 3000, c'est beaucoup?
Oui, c'est beaucoup. Oui. Actuellement, là, au Québec, les parcs sont entre 150, 230, 330, c'est dans les plus gros.
Okay.
Donc, oui, c'est sans commune mesure pour le Québec. Il y a des projets. Pour vous donner une idée un peu, là, il y a le Atla Wind Energy Center qui est en Californie, aux États-Unis, qui est un parc de 1500 mégawatts. Ça représente environ 600 éoliennes. Dans leur cas, c'est sur un territoire de 130 kilomètres carrés. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Là. C'est à peu près un quart de l'île de Montréal. Dans ce cas-ci, on parle de 3000 mégawatts, mais envisagé, évidemment, mais sur une superficie environ de 5000 km². Donc, on est ailleurs. C'est sûr que c'est des parcs importants. Il y a des parcs plus gros, essentiellement, situé en Chine, exactement. Donc, c'est important, mais en même temps, dans les plans d'Hydro-Québec, ils calculent que la demande va augmenter de 60 TWh. Donc, depuis qu'ils ont sorti leur plan, ils sont toujours en train d'ajuster un peu la puissance additionnelle dont ils vont avoir besoin. Mais on parle là, qu'ils devraient déployer 10 000 mégawattheures de nouvelles capacités éoliennes d'ici 2035. Donc, 2035, c'est demain matin, parce que c'est long, là, d'obtenir le go de concerter la population de concert avec les communautés pour ensuite trouver, parce qu'on ne connaît pas encore la dynamique, comment ils vont fonctionner pour... est-ce que ça va être du gré à gré? Est-ce que ça va être des appels d'offres pour sélectionner le constructeur? On ne sait pas encore. Et ensuite, toute la question de la mise en route des chantiers, la question de l'approvisionnement des matériaux, parce qu'il faut pas se tromper, on n'est pas les seuls à faire une course à la transition dite verte. Donc, la transition énergétique se fait partout dans le monde, donc il y a une compétition pour les ressources, donc ça met une pression sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est un gros morceau, là. Ça va être un gros morceau pour Hydro-Québec. Puis comme je l'ai dit, mais il manque encore beaucoup d'éléments pour. Ben, évidemment, Madame Reid-Forget l'a dit, c'est un peu une façon de venir répondre aux pression et aux contestations qu'il y a pu avoir dans le sud du Québec. Donc, inévitablement, mais quand on parle de mettre des éoliennes sur des terres agricoles, alors que les terres agricoles représentent à peu près 2% du territoire du Québec. Ben c'est normal que ça suscite des préoccupations, parce que là, on est dans une compétition quant au...
l'usage, exactement.
Merci. Ouais. Donc, ça fait... Exact, puis ça fait en sorte, est-ce qu'on se nourrit, est-ce qu'on se chauffe, est-ce qu'on... Donc, il faut à un moment donné décider.
Exactement.
Probablement que les grands projets, justement, vont se faire au nord, auprès de populations qui ont davantage l'habitude de ces grandes infrastructures-là aussi. Dans les derniers appels d'offres, là, du côté de la côte nord, personne n'est venu, il n'y a pas eu une montée de bouclier de la population pour dire on ne veut pas de ces infrastructures-là. Donc, c'est probablement la raison qui explique de les positionner un petit peu plus au nord, même s'ils ne sont peut-être pas dans les côtes nord. On est dans des bons corridors de vent.
Oui.
Saguenay, bon, je le connais un peu moins.
Oui,
mais
dans le fond, c'est vraiment choisi sur le gisement. Dans le fond, il y a un gisement de vent.
Oui.
C'est sûr que la Montérégie, la vallée de Saint-Laurent, il y en a des vents intéressants. Sauf que effectivement, il y a trop de concurrence. Puis n'oubliez pas que les projets qui ont été faits dans les années 2000, il y avait aussi toute cette approche de compensation individuelle qui a créé beaucoup, beaucoup de zizanie. Donc, celui qui a l'éolienne sur son terrain reçoit 25 000 $ par année pendant 20 ans, et l'autre à côté, rien. Alors, ça a créé... Oui. Il y avait aussi toute l'approche qui n'était pas nécessairement super gagnante dans le souhait d'un développement harmonieux. Alors, l'approche, évidemment, je crois qu'Hydro-Québec et leur équipe, ainsi que tous les gens qui ont des compagnies éoliennes, ont sûrement étudié sur comment le faire autrement. Alors, en mettant plus collectif, par exemple... dans l'Est du Québec, ils ont fait une alliance de l'Est. Donc, c'est une alliance de municipalités qui deviennent promoteurs des projets éoliens. Alors, en faisant une alliance comme ça, plutôt que des négociations à la pièce, c'était plus harmonieux. Alors, je crois que la proposition actuelle sur la... Ben, en fait, on a Saguenay, Côte-Nord, et je crois que la région de la Baie-James. On est dans des régions à fort gisement de vent. Puis, le conflit d'usage, il est essentiellement forêt boréale. Là, il y a évidemment des questions des faunes, des espèces floristiques ou fauniques à statut précaire. Là, peut-être qu'il y a des cas, mais pour celui de Chamouchouane, qu'on était pour lequel on a cette discussion, ça semblait quand même relativement paisible à cet effet-là. Sinon, les Premières Nations l'auraient sûrement nommé.
Oui, il n'y a pas trop d'enjeux environnementaux, si j'entends bien ça.
C'est vrai qu'on a vu beaucoup la compétition entre les municipalités ou les communautés, justement, pour qui aurait un projet et tout ça. Mais il faut voir quand même que bien que ce soit... que les éoliennes, en tant que telles, sont retirées du rôle foncier. Les municipalités les gens qui avaient des éoliennes sur le territoire recevaient des redevances aujourd'hui, ils sont fixés par décret, ces redevances-là, de 6227 $ du mégawattheure par éolienne sur le territoire. Mais ça n'inclut pas les profits, parce que souvent, depuis plusieurs années, les MRC, les communautés sont partenaires, peuvent être partenaires jusqu'à hauteur de 50 %. Là, ils n'ont pas d'obligation de se rendre jusqu'à 50 %. Donc, elles touchent aussi au profit de ces projets-là. Exactement, ouais. Qui est vendu à Hydro-Québec. Donc, ce sont les municipalités, les partenaires communautaires qui touche au profit en premier, puis ensuite, ce sont les entreprises. C'est pas l'idéal, mais il y avait quand même un certain encadrement qui était là. Et là où, les grands projets d'Hydro-Québec, où on peut se poser la question, jusqu'à maintenant, pour Chamouchouane, Hydro-Québec dit qu'il y a une participation répartie de manière égale entre les partenaires communautaires et Hydro-Québec, donc 50 % ou à peu près, là, on ne sait pas les montants, entre les partenaires communautaires et 50 % pour Hydro-Québec. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça fonctionne pour les redevances et la répartition des profits. Là, c'est sûr mm-hmm. qu'on est en territoire non organisé ou en partie en territoire de MRC aussi, mais la répartition des profits, les montants, est-ce que les redevances vont être de la même nature, donc du 6227 mégawatts par éolienne? Mm-hmm. On pourrait s'y attendre puisque ça a été fixé par décret, mais là, tout ça, c'est pas clair, ni la répartition des profits encore. Il y a encore beaucoup d'informations qui manquent là, pour être vraiment se faire une tête complète là, sur ce dossier-là.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On remarque, et ça a été souligné par de nombreux médias, l'importance du partenariat avec les deux communautés des Premières Nations, donc les Atikamekw de Wemontachi et les Montagnais Innus, la Première Nation Pekwakamwanuach, j'espère que je prononce ça bien. Donc, est-ce que c'est la première fois qu'on voit un tel partenariat autour d'un projet énergétique? Peut-être Madame Redforger, hein?
Ben, je dirais que ce qui est peut-être unique, c'est deux nations autochtones différentes avec une MRC, mm-hmm. Donc non autochtone. Typiquement, évidemment, c'est à cause de la taille du projet là, qui commande ce multi-partenariat. Normalement, il y a beaucoup de projets éoliens d'environ 15 éoliennes jusqu'à, je crois, le plus grand, il y en a 160, quelque chose comme ça. Là, on parle de peut-être 1000 éoliennes ou 800 éoliennes. Alors, et si ils veulent faire, évidemment, ils vont vouloir faire une planification la plus écologique possible. Alors, ils vont être répartis sur le grand territoire, mais probablement en différents projets sur le territoire, parce que justement, il y a plusieurs gestionnaires du territoire. Alors oui, c'est assez inédit, c'est super intéressant. Je crois que les deux nations autochtones semblent enthousiastes. Je crois les seuls peut-être préoccupation dont j'ai entendu parler personnellement, c'est qui investit, hein? Si on est co-actionnaire, oui, oui. Mm-hmm. Qui est l'investisseur? Et donc, évidemment, c'est pas des communautés, les trois partenaires, c'est pas des partenaires qui ont déjà du capital, hein, oui, où ils peuvent investir. Alors, évidemment, ça, c'est le point d'interrogation, mais j'ai quand même confiance qu'ils vont réussir à faire un scénario pilote, dans le fond, où potentiellement les deux autres grands projets puissent s'inspirer du processus de négociation. En ce moment, tout est à définir. L'annonce, dans le fond, c'est de dire oui, on est intéressé à travailler ensemble pour faire un méga parc éolien. C'est à peu près ça que ça dit.
Oui, on ne saura pas vraiment quelle sera leur implication, mais est-ce que ça pourrait être une source de revenus pour ces communautés-là?
C'est déjà pour les municipalités ou MRC puis communautés autochtones qui sont déjà participantes à d'autres projets. C'est inévitablement une source de revenus, que ce soit par. Mais encore là, à ce stade-ci, on ne sait pas si on se fie à l'existant. Mmh. Il y a une répartition des profits, donc tout dépendamment de la taille du projet, les communautés peuvent décider de ce qu'elles font avec ces profits-là. Est-ce que ça va être des budgets participatifs? Des fois, ça peut être une façon d'aller d'embarquer la population dans le projet aussi, mm-hmm. ou de vraiment de le répartir dans le budget soit de la MRC, soit de la municipalité ou de la communauté. Puis la façon dont actuellement les MRC vont chercher leur financement, c'est à travers des règlements d'emprunt avec le MAMH, le ministère de l'Habitation. Donc, c'est de cette façon-là dont ils procèdent. Côté autochtone, je connais moins les fonds, mais je sais qu'ils ont certains fonds là, fédéraux un peu de la même nature, donc qui ont quand même un avantage au niveau du taux d'emprunt là, que le secteur privé rêverait d'avoir, exactement. Donc, oui, il y a certains revenus. Est-ce que c'est la meilleure formule?
Il y a trop d'inconnus. Oui, Mme Raid-Forger.
Selon moi, il y a quand même des précédents. L'Alliance de l'Est a commencé ainsi, là, sans capital. Potentiellement, Hydro-Québec, c'est quand même une très, très grande société d'État avec beaucoup de fonds monétaires. Il y aurait tout à fait, puis même quand on fait... je crois qu'elle peut jouer un rôle banquier au départ dans le sens de faire un prêt remboursable ou pour assurer le départ du moins, puis après ben, avec les revenus l'entreprise peut devenir autosuffisante là, les entreprises qui seront créées là, potentiellement des entreprises d'économie sociale qui seront créées ben pourront devenir plus autonomes. C'est sûr que quand on lit le communiqué de presse, c'est clair que la co-définition du projet même sera fait ensemble. Alors ça, c'est peut-être différent des projets qu'on a vus avant. Typiquement, au Québec, lorsqu'on fait un grand projet ou qu'on soumet un projet à une communauté, l'initiateur du projet arrive quand même avec une proposition de lieu. Et dans cette proposition-là, ce qu'on propose, c'est que comme ce sont des co-développeurs, donc des actionnaires, c'est qu'on propose de définir avec le Mutashi et Mastoyach, puis la MRC du domaine 3, comment va être fait le projet, où va être fait le projet, puis à qui, comment vont se partager les profits. Alors, pour ça, c'est intéressant de le prendre autant d'avance.
Oui, ben c'est intéressant de travailler en commun pour le commun, finalement le besoin commun. Madame Provençal, est-ce que ce projet permettra une transition énergétique juste? Et si oui, comment?
Ben, pour avoir une transition énergétique juste et équitable pour tous, il ne faut pas voir que la fin de la ligne, donc oui. La production. Actuellement, c'est un peu l'enjeu, c'est un peu le problème, en mon sens, de la transition énergétique du Québec, c'est qu'on se concentre sur la production.
Finale d'électricité,
exactement.
Finalement.
J'en conviens de transférer toute la flotte de véhicules thermiques à une flotte électrique. Inévitablement, ça va entraîner une augmentation de la consommation d'électricité. Même chose pour la décarbonation de l'industrie qui va entraîner une augmentation plus importante de l'électricité, de la consommation d'électricité. Mais il faut voir d'abord à introduire une logique de sobriété énergétique sur l'ensemble du Québec, donc une sobriété énergétique qui ne toucherait pas que les individus, hein, parce que ce qu'on voit actuellement, là, le gouvernement met beaucoup l'emphase sur la responsabilité individuelle pour être plus sobre, sauf que si on ne nous donne pas d'outils, c'est très difficile d'être sobre. Et puis les entreprises peuvent l'être aussi, parce que le principe de la sobriété, au-delà de la sobriété énergétique, l'idée c'est d'éviter en amont d'avoir à consommer davantage de ressources, puis les ressources...
Oui. Mieux consommer,
oui,
finalement.
Puis ça peut être le sol, ça peut être l'eau, ça peut être l'énergie, donc... et ça doit venir de politiques publiques et de pratiques du quotidien. Donc, les deux doivent venir et doivent toucher l'ensemble des acteurs privés, publics, individus. Ensuite de ça, il y a l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, bien, ça en produit des effets rebonds parce qu'actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a... oui, on fait des programmes d'efficacité énergétique, mais au final, c'est pour dépenser cette énergie-là ailleurs. Donc, on ne fait pas vraiment de l'efficacité. On distribue différemment l'énergie qu'on consomme. Donc, il faut faire l'efficacité énergétique sans effet rebond et ensuite la bonne énergie renouvelable au bon endroit. Donc, c'est important. Oui, on va avoir une augmentation de la consommation d'énergie, mais si on se concentre uniquement sur le volet production, on va être toujours en manque d'énergie. On va mm-hmm. toujours avoir à construire plus puis à faire plus parce qu'on va vouloir plus. On est dans cette logique-là, sauf que des ressources, la planète
limité,
a des ressources limitées. Donc, on peut pas regarder uniquement le côté production.
Madame Reid-Forger, pour terminer, j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus aussi. On consomme, on produit beaucoup parce qu'on consomme, mais peut-être il faudrait revoir un petit peu dans une équation un peu plus verte, pas juste dans la production, mais aussi dans la consommation.
Effectivement. Moi, en réalité, ma préoccupation est d'un autre ordre, je dirais, c'est que je vois beaucoup... dans mon travail, je suis témoin d'une accélération de l'usage du territoire pour des fins énergétiques plutôt que d'autres fins.
Oui, oui.
Et là, la question que je me pose, c'est est-ce que dans 50 ans d'ici, on va pas avoir des grands regrets d'avoir pris des décisions dans notre besoin immédiat d'énergie alors qu'il y a d'autres besoins comme celui de protéger la biodiversité ou de, les puits de carbone avec les forêts. Puis, par exemple, si je reviens aux éoliennes, c'est que c'est sûr que les éoliennes, elles ont l'air d'un produit d'énergie verte, mais la batterie pour accumuler l'énergie demande de faire des mines. Puis, au Québec, ben on a le bouclier canadien, on a une abondance des mines et on va devoir faire plus de mines pour être capable de faire des batteries assez puissantes pour accumuler l'énergie des grands parcs éoliens. Alors, au final, c'est toujours il n'y a jamais un projet de développement qui se fait de manière complètement verte et noble et éthique parce que finalement, il y a toujours un sacrifice de d'autres choses. Alors moi, elle est là ma préoccupation. Puis
des conflits aussi, peut-être aussi, entre le Nord et le Sud.
Et la démocratie, non, mais moi, c'est la démocratie du territoire. Oui. Sur nos terres publiques, un peu moins de démocratie concrète parce qu'il y a moins de gens qui l'habitent. Alors, est-ce qu'on met ça sur les territoires où c'est plus facile de le faire accepter alors que c'est peut-être des territoires importants pour la santé des écosystèmes, effectivement?
Oui. Entendu. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Julie Reid-Forger, vous l'avez entendu, experte en conciliation du territoire et chroniqueuse environnement, et de José Provençal, professeur adjointe et chercheuse en sciences politiques au Collège militaire royal de Saint-Jean. Merci à toutes les deux.
Merci.
Merci. Bonne journée.
Voilà, Je vote pour la science, c'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robartcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez, comme toujours, réécouter l'émission. Si vous l'avez aimée, bien sûr, partagez-la. Et visitez aussi la page de l'émission sur le site de Science Presse. Je souhaite de passer tous et toutes une belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume.